closer.
Radio.
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 Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Alplav, une toute nouvelle radio qui va émettre durant toute la semaine de 11h15 à midi. Une radio qui touche les sommets.
Ah bon, pourquoi les sommets?
Bah tu vois, les sommets, la montagne quoi.
Ah oui, Radio Alplav, une radio de montagne en direct de Lausanne. Oui, nous voilà en direct du collège de Béthisy à Lausanne. Nous sommes dans la salle A18 au premier étage pour les fans qui voudraient venir nous rendre visite.
Ce matin au micro, il y a Lucinda. Bonjour Lucinda.
Bonjour. Et avec moi, il y a Alicia. Bonjour Alicia.
Bonjour tout le monde, des plaines et des montagnes. Et ce matin en direct avec nous, une classe de Béthisy qui nous écoute un étage au-dessus.
Oui, d'ailleurs, on les entend. Il y en a qui ne se sont pas encore installés. S'il vous plaît, asseyez-vous. On entend le bruit de vos chaises dans nos micros. Alors, bon ma chère Alicia, de quoi parlons-nous ce matin? Car nous ne sommes pas ici pour parler de shopping, de Noël ou d'eyeliner.
En effet, Lucinda, nous sommes ici pour vous faire passer un moment de découverte sur les traces du groupe Alplab.
Ah oui, quel beau groupe, que de souvenirs.
En fait, en quoi consiste le projet Alplab?
Mais nous avions fait un interview, non?
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Autant l'écouter tout de suite.
C'est parti pour une représentation du projet Alplab avec notre prof interrogée par notre chère Déborah.
Je suis en compagnie d'Ismaël Gosso, responsable du projet Alplab, pour lui poser quelques questions sur ce projet. Monsieur, pourquoi avoir choisi le nom Alplab?
Alplab, c'est l'acronyme de Alp, évidemment, et de laboratoire, parce que mon idée, c'était de faire enquêter les élèves pendant quelques jours sur des thèmes, sur des thématiques qui traitent de la montagne et donc des Alpes.
D'accord. Comment vous est venue cette idée de mettre en place un tel projet?
Alors j'avais très envie d'amener des élèves à la montagne, faire de la haute montagne, faire de l'alpinisme, se promener en haute altitude. Et puis j'aime beaucoup faire les camps. Et puis on cherchait un projet également scientifique. Donc on a mis tout ça ensemble et puis ça a donné Alplab.
L'idée de base de ce projet s'est-il concrétifiée ou vous avez dû changer beaucoup de choses?
Alors au début, on pensait faire quelque chose de beaucoup plus grand et puis on a quand même dû réduire un petit peu parce que ça coûte très cher d'amener des élèves à la montagne pendant longtemps. Mais globalement, l'entier du projet pour l'instant est réalisé.
D'accord. Concrètement, Alplab, c'est quoi?
Alors, on prend un groupe d'élèves, on les transforme en alpinisme, on leur enfonce dans le crâne à coups de piolet quelques bonnes idées sur la montagne. On leur donne un but d'enquête et puis on part avec ses élèves à la montagne pendant 5 jours pour faire une enquête. L'année passée, on a fait une enquête sur les personnes qui vivent et qui travaillent à la montagne. Ça a donné un jeu de rôle. Et puis cette année, on est parti sur les réchauffements, enfin sur les changements climatiques en montagne. Et puis ça donne l'émission de radio que vous êtes en train d'écouter.
D'accord. Vous êtes heureux du résultat?
Alors mes élèves sont magnifiques, donc évidemment je suis très heureux.
D'accord, merci beaucoup. Keep your clever lines, hold your easy rhymes. Everything, silence always wins.
take, leave what others take, speak what's spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright, the morning light, just silence everything.
Vous êtes toujours avec Radio Alplab.
C'était Aha avec Foot on the Mountain.
Alors, tu te rappelles ce qu'on a fait lundi ?
Ah, ça remonte à longtemps. Mais une chose est sûre, on a fait énormément de trains. Tu te rappelles ?
Bien sûr, tu faisais des selfies toutes les 2 minutes.
Arrête ça, on est quand même à la radio.
Mais oui, bon, bref. Après, on est arrivé en face d'un super, énorme, magnifique glacier. Mais avant ça, on aurait pu passer sur le livre des records, étant donné qu'on s'est entassé à 14 dans un petit fourgon avec nos guides et tous nos sacs. La semaine commençait bien. Et le prof qui stressait toutes les 2 minutes en regardant le ciel.
Oui, on aurait dit qu'il priait tous les dieux de montagne pour qu'on n'ait pas de neige.
Et ça n'a pas manqué. Mais bon, juste un peu.
Pour avoir un résumé, nous allons vous passer un enregistrement fait le jour même avec Odile et moi-même.
Lundi 25 août.
Récit du jeu. Il était une fois un groupe de jeunes alplabiens qui partaient pour 5 jours de montagne.
Ce matin-là, dans le métro, les gens les avaient regardés un peu bizarrement, car ils étaient en habit de montagne le jour de leur rentrée scolaire.
Ils prirent le train à 8h04 sur la voie 5. Leur but était d'arriver à la cabane de Moiré et pour cela, ils prirent encore 3 bus. Arrivés au parking, ils devaient marcher 2 heures jusqu'à la cabane. Mais grâce à diverses activités, ils ne s'ennuyèrent point.
Arrivés à la cabane, ils déposèrent leurs affaires. Ensuite, ils repartirent pour une petite balade. Le souper fut à 18h30. C'est à ce moment-là que toutes les filles regardèrent. Beau garçon anglais de la table d'en face.
Avec Maroon 5.
Maintenant, on va vous présenter le thème du jour, l'énergie.
Oui, pas l'énergie que l'on boit en canette, mais l'énergie renouvelable, l'énergie hydraulique.
Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des grands barrages, comme le barrage de la Grande Dixence. Si vous allez vous promener en montagne, vous en avez certainement déjà vu.
Nous avons choisi ce thème car le premier jour, nous aurions dû aller visiter le barrage de Moiry. Mais comme les conditions du temps étaient mauvaises, on a dû annuler. Alors, nous avons visité une centrale hydraulique à Motec et nous avons même un enregistrement à ce sujet.
On peut dire, ma chère Lucinda, que nous sommes au cœur de l'actualité. Radio Alplab est à l'écoute du monde.
On peut dire ça, en effet. Ces jours, notre gouvernement discute de notre futur, des énergies que nous allons utiliser pour recharger nos smartphones, pour continuer de faire plein de selfies.
Et on peut dire que le choix de la montagne et de l'énergie est juste, donc, car il semblerait que les barrages et l'énergie électrique qu'ils produisent sera notre énergie du futur.
Pourvu que je puisse recharger mon smartphone, ça ira. Alors, direction la centrale hydraulique de Motec, au Val d'Anivier, où nous avons rencontré deux personnes super sympas qui nous ont expliqué cette énergie et les défis du futur pour l'énergie. C'était au mois d'octobre avec M. Yves Jacquier et René Baumann.
Donc la chance qu'on a ici, c'est que Motec, c'est une petite centrale où il y a beaucoup de choses. C'est un laboratoire d'hydraulique, si on veut. On fait du turbinage, du pompage, du siphonnage.
Depuis quand utilise-t-on l'énergie de l'eau pour faire de l'électricité ?
Donc en 1908, pourquoi 1908 ? Ils ont servi sa centrale Navisance. En fait, c'est un petit peu l'histoire de l'hydroélectricité en Valais. Pourquoi on fait de l'hydroélectricité en Valais ? Parce qu'il y a des montagnes, il y a de l'eau, bien sûr, on dirait. Et l'énergie, elle est là. Et en fait, historiquement, je dirais, les industriels, ils ont recherché des endroits où il y avait ce potentiel énergétique pour produire. Et en fait, on a eu l'industrie de l'aluminium qui s'est développée en Valais dès le début du siècle, donc 1908, comme ça, parce qu'on avait besoin de beaucoup d'énergie électrique pour pouvoir faire l'électrolyse d'aluminium. En fait, c'est de là que ça vient. La centrale de Navisance, c'est aussi la centrale du Rhône, en fait, à Chipis. Ces deux centrales, elles ont été construites parce qu'on avait énormément besoin d'électricité.
Et quand ont été construits les grands barrages ?
Donc, le grand développement de l'hydroélectricité en Valais, c'était vers les années 50. C'est là où on a construit les grands barrages. On est à 50-60.
Pour les gens de la montagne, qu'est-ce que les barrages apportent ?
Nous, en tant que commune alpin, nous, on survit grâce à ça. Si on n'avait pas ces redevances hydrauliques, à quelque part, on serait sous tutelle du canton, parce qu'on n'a quasiment pas d'entrée d'argent. C'est pas quelqu'un ici, par exemple, la commune d'Anivier, c'est 2500 habitants. Donc imaginez-vous avec un nombre aussi peu d'habitants, avec toutes les charges qu'une commune est là, telles que protection d'avalanche, on n'arriverait plus, on serait en faillite, quoi.
Les rentrées, c'est quoi ? Il n'y a pas de grosse industrie, donc c'est vraiment l'individu ou l'eau. Ouais.
Si un jour les glaciers ne donnent plus d'eau, qu'est-ce qui se passe ?
Si vous voulez, nous on a fait une extrapolation au niveau des glaciers. Mm-hmm. Donc avant aussi d'investir, on aimerait aussi un peu savoir un peu comment ça va. C'est clair, jusqu'en 2100, il n'y aura plus grand-chose après. Par exemple, tout ce qui est ici à Motec, la prise d'eau qu'on a ici à Motec, ça c'est que la fonte du glacier.
C'est-à-dire qu'à partir de 2100, il n'y aura plus beaucoup d'eau.
Oui, il n'y a plus beaucoup de glaciers, non, je pense. Ça, c'est dans des extrapolations. Ça, ils sont partis. C'est Zurich qui a fait les PFZ, de Zurich qui a fait ça. Et il y a une extrapolation qui s'est faite par rapport un peu aux moyennes de température qu'il y a eu les X dernières années. Et puis grâce à ça, ben, on a pu extrapoler. Comme l'année passée, par contre, on a eu, cette année, on a eu une année, en guillemets, presque bon pour les glaciers. Mais il y a cette diminution du volume du glacier, elle s'est quand même faite. Ça, c'est clair, une fois qu'il y a un système, le cycle est entamé, ça devient difficile à freiner.
Qu'est-ce qui change dans le monde des énergies ?
Suite à Fukushima, hein, donc on a pris des résolutions assez drastiques, mais derrière, suite à ces résolutions, on veut arrêter le nucléaire, mais on veut le remplacer par des nouvelles énergies, telles que le photovoltaïque ou l'éolien. Mais ça, pour nous, je dis, c'est magnifique, parce qu'il faut que ça soit un paquet. Donc, toutes les énergies sont bonnes à prendre. Simplement, il faut juste regarder que derrière, il y a la régulation du réseau qui doit être faite.
Pourquoi l'énergie éolienne et l'énergie solaire sont difficiles à mettre dans ce système ?
L'éolien et le photovoltaïque, c'est des énergies qui sont perturbatrices là-dedans. Pourquoi ? Parce que vous allez injecter de l'énergie dessus, mais si vous n'en avez pas besoin. Par exemple, vous avez le soleil le samedi-dimanche, ce n'est pas le samedi-dimanche qu'on a besoin d'énergie.
Quels sont les avantages de l'énergie hydraulique ?
L'hydroélectricité, elle a un gros avantage là-dedans, c'est que vous pouvez enclencher les machines dans les secondes qui viennent. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire ce qu'on appelle de la régulation.
On a une perturbation au niveau économique, mais aussi au niveau production, parce qu'on remplace, on dira, l'énergie ruban, qu'on appelle pour les centrales nucléaires, eux produisent de manière monotone, on dira, hein, tandis que le soleil et le vent, ça fait des pics comme ça. Donc les pics qui sont faits par le soleil et le vent, ben, on doit les absorber, enfin on doit les compenser, je dirais, avec l'hydro.
Que les glaciers diminuent, on fait comment ?
Alors, c'est pour ça que je dis, il y a toutes les énergies qui doivent être présentes. Il faut continuer à faire des recherches. On a encore un gros potentiel, comme la géothermie.
On jetterait de l'eau qui se chauffe, qui serait chauffée par le centre de la Terre, et après
Exactement.
Puis avec ça, on peut faire production de vapeur, et puis production de vapeur, on peut faire un cycle combiné, enfin, pour produire de l'énergie avec la vapeur.
À quel niveau est-ce qu'on doit prendre des décisions sur ce qu'on fait avec l'électricité ?
Mais ce qu'il faut, c'est qu'au niveau politique, en tout cas européen, c'est qu'on commence à se mettre d'accord, parce que là, il y a un gros problème. Ces nouvelles énergies, qu'on appelle aussi énergie renouvelable, mais l'hydraulique, c'est de l'énergie renouvelable, mais ces nouvelles énergies, elles ont été tellement subventionnées, c'est qu'elles ont tout faussé le marché.
Peut-on remplacer le nucléaire par l'énergie de la montagne ?
Mais la réponse à la question de qu'est-ce qui va remplacer le nucléaire, nous, on l'a pas. Actuellement, franchement, on n'a pas les capacités de remplacer le nucléaire. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est clair qu'il faut aussi que la recherche continue pour trouver de nouvelles sources d'énergie, on dira, qui sont plus acceptées par la société.
Mais dans le futur, il y aura, comme le pétrole, il n'y en aura plus tellement. Peut-être qu'il y aura des nouvelles voitures électriques, mais s'il y a plus de voitures électriques, il faudra produire plus d'électricité. Donc,
il faudra trouver des moyens de produire l'électricité, autrement qu'avec de l'eau.
Non, mais la seule chose qui est dommage, c'est vrai que le nucléaire, moi je trouve que c'est une énergie fantastique. Simplement, le gros problème qu'on a, c'est au niveau des déchets. On ne maîtrise pas les déchets. Et puis, malheureusement aussi, quand on a des accidents, on voit les conséquences. Hein, c'est quelque chose de désastreux au niveau écologique. Parce que dès que vous avez des émanations, quand on voit Tchernobyl, qu'est-ce qui s'est passé, hein, quand on disait non, mais il n'y a aucun souci, ben le nuage, il a quand même radioactif, il a quand même fait minimum 3 fois le tour de la Terre.
Si on prend l'eau de la montagne et qu'on envoie toute cette eau vers les barrages, est-ce qu'on risque d'assécher d'autres zones ?
C'est la loi maintenant qui nous dicte. Hein. Nous, on est obligé de doter, ce qu'on appelle. Hein.
C'est-à-dire que
vous devez avoir un débit résiduel. Alors ça, c'est clair. Pour nous, c'est ce qu'on appelle vraiment une perte. D'autres. Et si vous pouvez regarder, je ne sais pas, quand vous êtes monté à Moiry, vous êtes d'accord, vous avez le barrage, mais à l'aval du barrage, il y a déjà un petit rivière qui était là. C'est clair que les écologistes, eux, ils aimeraient bien garder, en guillemets, les rivières vivantes. Mais je vous dis, pour nous, c'est des pertes qui sont relativement importantes. Il y a Gougra, tout un projet au niveau prise d'eau. Nous, on voulait faire des prises sous glacière. Le but, c'était d'aller chercher sous le glacier l'eau. Et ça, c'est seulement pendant la période estivale. En hiver, automatiquement, les prises, même le dessous du glacier, il va geler, c'est fini, il n'y a plus rien. Et ça, c'est exclu. Nous, on a reçu, en guillemets, Gougra a reçu les félicitations de l'OFEN, donc l'Office fédéral de l'énergie, comme quoi ben, c'était quelque chose où il y avait une plus-value au niveau énergétique, parce que on n'assèche rien. Hein. Mais au niveau de l'Office fédéral de l'environnement, eux, ils ont fait opposition. Pourquoi? Parce que juste à la sortie du glacier de Zinal, quand on redescend vers Timuntet et tout, c'est une zone alluviale qui est protégée au niveau national. Et là, vous enlevez pas un litre d'eau. Mais si le nucléaire tombe, où on va chercher cette énergie? Ça aurait été, par exemple, un petit pas en avant.
Eh bien, j'espère que vous avez pris des notes et que le quiz se remplit. On vous donnera les solutions à la fin de l'émission.
C'est quand même fou ce que l'électricité peut être importante. Alors, je lance une proposition. Si un jour, nous n'avons plus de centrale nucléaire et que les glaciers ont fondu, on met un vélo d'appartement sous chaque table d'école et tout le monde, pendant les cours, pédale.
Oui, et on sera comme ça toujours en pleine forme. Mais avant de continuer, voici la meilleure chanson au monde. Pendant la chanson, préparez vos questions pour notre invité du jour qui nous a rejoint dans notre studio.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
Nous allons faire quelques jeux. Alors, ouvrez bien vos oreilles, car vu qu'on est à la radio, on va vous faire deviner des bruits.
Et vous pouvez nous répondre en ligne sur notre page Facebook. Pour une fois que vous pouvez aller sur Facebook pendant un cours, il faut profiter.
Alors, à vous de jouer.
Alors,
vous avez deviné? C'est quand même pas si compliqué.
Vous allez avoir deux sortes de jeux. Un jeu de son et un jeu d'image. Maintenant, l'explication pour les jeux de son. Alors, vous allez entendre un son quelconque qu'il faudra essayer d'identifier. Après une petite réunion de classe, envoyez-nous votre réponse par message.
Et maintenant, explication du jeu des images. Rendez-vous sur notre site de radio. Regardez très attentivement l'image et, après réflexion, donnez-nous une réponse.
Alors, vous avez deviné?
Forgive you. never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could forgive you.
Tu te rappelles de nos guides?
Non, pas trop. Enfin, je me rappelle qu'il y en avait deux.
Tu te rappelles pas? On a même fait un enregistrement.
On peut l'écouter, non? Ça serait bien.
Alors, d'abord, quelques remerciements à nos guides Bertrand et Alain qui nous ont supportés pendant les deux premiers jours et qui ont été vraiment super sympas. On a appris plein de choses grâce à eux.
Et aussi un remerciement au magasin Bakli de Lausanne qui nous a prêté tout le matériel d'alpinisme pour aller sur le glacier, les crampons, les baudriers, les casques, les piolets et les cordes. Merci beaucoup à Bakli car sans tout ça, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu.
Mais nos sacs auraient été beaucoup plus légers.
Et oui, ça on peut le dire. Même qu'une de nous s'est coupée avec un piolet. Dangereux la montagne. C'est bon. Écoutons l'interview des guides.
Parlez-nous de vous et de votre métier.
Je suis guide de montagne et puis je suis biologiste.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Je pense que la première chose qui m'a complètement impressionné chez les guides, que je connaissais absolument pas en étant enfant, c'était un groupe de copains. J'ai eu l'impression qu'en venant guide, j'allais rejoindre un groupe de copains. Chaque fois, c'était la même chose. Il y avait Pierre ou il y avait Antoine. Puis quand ils arrivaient dans une cabane, ils voyaient d'autres guides. Et puis, c'était les meilleurs amis du monde. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que je pourrais entrer dans le club des meilleurs amis du monde. Et je crois que ça, c'est la première chose. J'étais peut-être un petit peu solitaire, beaucoup occupé sur tourner autour de moi-même. Et puis ça m'a donné très, très envie.
Depuis que vous avez commencé ce métier, qu'est-ce qui a changé dans l'environnement?
C'est une question qui est très très importante que vous posez là, parce que la rapidité avec laquelle l'environnement naturel des Alpes change fait que ça devient difficile pour quelqu'un qui n'est pas tous les jours en course, tous les jours dans le même secteur. Il découvre d'une année à l'autre ou de deux ans, en repassant 10 ans après dans une autre région, que ce qu'il avait en tête comme itinéraire, il n'est plus possible.
Vos clients ont-ils changé depuis le début?
Ça fait presque 20 ans que j'ai fini ma formation de guide. Et on peut dire que les 10 dernières années, j'ai fait beaucoup de randonnées, de formations dans le cadre de la randonnée. Et puis, c'est devenu une activité à laquelle je n'avais pas été préparé en tant que tel durant ma formation de guide. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous, comme guide, on pratique la randonnée en permanence.
Quel est votre souvenir le plus marquant?
Si vous voulez, chaque expérience, par certains aspects, ou certains côtés, c'est vraiment très marquant. Il y a des circonstances épouvantables avec des décès ou des accidents. Dans ce moment très positif que je vis maintenant avec vous, ça me marque aussi. Je me suis rappelé de nombreuses années, par exemple, d'un accident, d'un décès qui a eu lors d'un cours de guide où on est. Voilà, moi j'étais dans une classe avec 5 autres personnes, on était 6. 6 jeunes apprentis guides, il y avait un chef de classe, et puis il y avait une autre classe avec un formateur, et puis 6 apprentis guides. Et puis dans notre classe, eh bien, à la fin de la journée, ils sont rentrés à 6, il y avait le moniteur, et puis 5, parce qu'il y en a un qui était décédé, qui était tombé dans un rappel. J'ai eu un moment extrêmement émouvant l'année passée, ou 2 moments très émouvants. On a fait des jolies courses avec mon fils aîné. Et puis j'ai pu pratiquer de l'alpinisme avec lui en arrivant sur un sommet. Et puis il avait une telle joie en arrivant, il était tellement content parce que lui, il a bientôt 18 ans, il aime bien. Alors on avait dépassé tout le monde à la montée, il était extrêmement heureux.
Ça me rappelle un souvenir un peu analogue, c'était, justement, j'en reparlais il n'y a pas longtemps, pour moi c'était peut-être le plus beau souvenir de montagne. C'était d'être seul au sommet du Mont Blanc au mois de novembre. avec une vue, pas un nuage à l'horizon dans toutes les directions, donc une vue sur la moitié de l'Europe, ouais. Et pas de vent, rien. On était les seuls au sommet du Mont Blanc à deux. C'était magique. Ça, ouais. C'était peut-être ma plus belle, mon plus beau souvenir de montagne.
Quand vous étiez enfant, vous aimez bien la montagne ou vous pratiquez,
oui,
souvent de la montagne?
Oui, j'ai commencé assez tôt. C'est souvent, bah, c'est à la photo parents déjà. On a des parents qui aiment la montagne, donc ça aide. Et puis, puis après, avec quelques les filières classiques, on a souvent la possibilité de faire la montagne dans un club alpin. Il y a des organisations pour les jeunes, et puis je me suis retrouvé là-dedans un petit moment. Puis après, au sein de cette structure, une série de copains, on a continué à faire la montagne ensemble, hors du club alpin.
Bah, c'est fini alors. Merci.
Nous vous avons fait quelques astuces pour partir en montagne. Et même une minute délire. Car avant de partir en montagne, le grand problème, c'est de faire son sac. Il est tout petit et on ne peut y mettre que le strict nécessaire pour survivre. Et à la fin, il est grand, il est quand même super lourd. Alors une semaine avec un sac super lourd sur le dos, quelle galère!
Ouais, et contrairement à ce que l'on croit, ma chère Alicia, c'est pas les filles qui l'ont plus rempli. On a suivi les conseils, pas de make-up, pas de fun, pas de jeans et pas 10 paires de chaussures.
Ah ouais, les mecs ne faisaient que de se plaindre que leur sac était trop lourd. Ils ont même dû les vider en cours de route dans le coffre de notre guide du mercredi. La honte!
Ah, je te jure, les mecs, quelle petite nature!
Alors, écoutons les conseils de nos spécialistes en remplissage de sac.
Trucs et astuces.
Comment préparer son sac quand on part une semaine en montagne? D'abord, prendre le strict minimum. Shampoing, maquillage, parfum et tout autre produit de beauté, il faut oublier.
Faites attention au poids du sac, car plus on est fatigué, plus le sac paraît lourd. On parle par expérience.
Prendre un bon équipement, c'est très important. Se sentir bien dans ses habits, c'est impératif.
Organiser ses affaires, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir les affaires utiles pendant la marche, à portée de la main.
La pharmacie doit être dans une poche extérieure afin d'y avoir accès rapidement en cas de besoin.
Maintenant, la minute délire. Ouais. Comment draguer un beau gosse anglais?
Premièrement, si vous voulez prendre une photo de lui, soyez discrète.
Deuxièmement, contrôlez votre température corporelle. Si vous rougissez, allez vous rafraîchir.
Troisièmement, ne pas délirer avec ses copines en parlant anglais. En bref, faites pas comme nous.
Et n'oubliez pas, de toute manière, vous n'avez aucune chance.
On va vous présenter notre cher invité, M. Raphaël Leroy.
Ingénieur en génie civil, il travaille chez Delbe, entreprise alpique qui gère le barrage de Moiry.
On vous souhaite la bienvenue sur notre antenne.
Bonjour monsieur, pour commencer, merci d'être venu avec nous ce matin et de participer à cette émission avec nous. Est-ce que vous voulez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre travail ?
Bonjour d'abord, je suis ingénieur civil puis je suis responsable en fait du génie civil pour toute la production hydroélectrique du groupe Alpique. Donc l'essentiel de mon travail consiste à m'occuper des ouvrages d'accumulation, notamment les barrages, toutes les galeries qui amènent l'eau au barrage, et également les ouvrages souterrains dans lesquels on retrouve en fait les centrales de production. Et en second, je m'occupe plus particulièrement également du contrôle des ouvrages conformément en fait à la loi sur les ouvrages d'accumulation. Donc on nous oblige en fait à procéder à des contrôles sur le comportement de l'ouvrage pour assurer la sécurité de ces ouvrages.
Est-ce que le fait qu'il y ait des barrages partout dans les Alpes ne va pas endommager l'image de la Suisse ?
En fait, je crois que l'image de la Suisse et les barrages participent à cette image de façon à ce que les barrages en fait font partie du paysage de la Suisse et passablement de touristes viennent également en Suisse pour voir ces ouvrages, pour voir ces barrages.
Les éboulements représentent-ils des dangers pour les barrages ?
Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, les éboulements présentent des dangers pour les barrages, dans le sens où si un barrage devait subir un gros glissement de terrain, un gros éboulement, on pourrait en fait s'attendre à avoir une vague liée à l'impact du massif dans le lac de retenue, vague qui pourrait submerger en fait le barrage et puis créer une inondation à l'aval. C'est pour ça que dans le cadre en fait du contrôle qu'on effectue sur ces ouvrages, on procède à un contrôle géologique de la retenue et on s'assure en fait que la stabilité des massifs rocheux qui sont aux alentours soit stable et puis ne présente en fait aucun danger par rapport à la retenue.
Alors, on vient de recevoir une question de la classe. Alors, les barrages attirent-ils des touristes ?
Effectivement, beaucoup de barrages. Donc, les grands barrages, en tout cas, attirent énormément de touristes. Si on prend en fait le barrage de la Grande Dixence, à titre d'exemple, c'est un barrage qui fait partie du groupe Alpique. Le barrage de la Grande Dixence, il y a à peu près 100 000 personnes qui vont visiter le barrage par année, donc dans son extérieur, qui font des promenades autour du barrage. Et le barrage est également ouvert en fait aux touristes. On peut procéder à des visites à l'intérieur du mur pour voir en fait comment ce mur est contrôlé, pour voir en fait le dispositif d'auscultation qui est à l'intérieur. Et environ 10 à 15 000 personnes visitent l'intérieur du barrage de la Grande Dixence. Un autre exemple, le barrage des Maussons, qui est au-dessus de Martigny, il y a à peu près 150 000 personnes qui vont visiter, en fait, ou qui se promènent dans les alentours du barrage des Maussons.
C'est une autre question de la classe qui nous suit. Lorsqu'il n'y aura plus de glaciers, comment fera-t-on pour produire de l'énergie ?
En fait, le recul des glaciers est une actualité qui est d'importance ces temps, compte tenu en fait du problème du gaz carbonique, donc du CO2. On sait, les modèles prévisionnels météorologiques prévoient d'avoir un recul des glaciers. Par contre, on sait également que dans les Alpes, les événements météorologiques et puis la quantité d'eau qui va arriver au niveau des Alpes sera légèrement supérieure à celle qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les tempêtes ou les crues qu'on subit en fait ces derniers temps. Les barrages continueront en fait à se remplir et permettront également d'éviter en fait des problèmes de crues à l'aval des ouvrages.
Alors, il y a aussi une dernière question qui nous est arrivée d'une classe qui nous suit. Pourquoi le solaire et l'éolien est une énergie perturbatrice ? Est une énergie perturbatrice ?
Oui. Alors, le solaire et l'éolien, en fait, sont des énergies perturbatrices parce que ce sont des énergies qui sont tributaires, en fait, des conditions météo. On vient de voir maintenant, la ville de Lausanne était sous le brouillard jusqu'à quelques heures en arrière, jusqu'à maximum une heure en arrière. Maintenant, le soleil ou les nuages se sont ouverts, le soleil vient d'apparaître. C'est clair, si en termes de prévision météorologique, on se trompe, en fait, sur le fait d'avoir un impact ou d'avoir, en fait, ce soleil qui va apparaître, les panneaux photovoltaïques qui doivent réagir par rapport à cette énergie ou le programme qu'on avait initialement prévu, le programme de production qu'on avait initialement prévu par rapport à ces panneaux, il faut compenser ou gérer en fait cette énergie qui est une énergie plus ou moins aléatoire. L'énergie solaire est également perturbatrice dans le sens où, sitôt que la nuit tombe, les panneaux photovoltaïques ne produisent plus d'énergie. Donc, il faut compenser ces besoins d'énergie par d'autres sources. Ces autres sources peuvent être l'énergie éolienne, mais l'énergie éolienne est également fonction du vent, est également fonction des conditions météo. Donc, lorsque ces outils de production produisent de l'énergie et que la demande n'est pas au rendez-vous, mais il faut que cette énergie-là, il faut soit la détruire en mettant les éoliennes en drapeau, entre guillemets, ou alors il faut procéder à du pompage de façon à pouvoir accumuler cette énergie sous forme d'énergie potentielle en pompant de l'eau dans les ouvrages comme on peut le faire, notamment au barrage de Longrain ou sur de nouveaux projets comme est l'aménagement de pompage-turbinage, nouvel aménagement de pompage-turbinage de normes de Rance. Peut-être en complément à la question qui était posée tout à l'heure par rapport au recul des glaciers, au travers des différentes modélisations qui ont été faites par rapport à ce recul des glaciers, on sait qu'on va retrouver en fait des lacs naturels qui seront créés par le recul des glaciers, et ces lacs permettront également d'accumuler de l'eau ou de pouvoir en fait créer éventuellement de nouveaux aménagements de stockage d'énergie.
Qu'est-ce que vous craignez par rapport à l'énergie renouvelable ?
Alors, en tant que telle, l'énergie hydroélectrique est l'énergie renouvelable la plus importante actuellement en Suisse, puisque la matière ou le combustible, entre guillemets, qu'on utilise pour produire en fait cette électricité, c'est l'eau. Et comme vous l'avez tous vu dans vos cours de géographie ou dans vos différents cours, donc l'eau, la pluie, en fait, fait partie du cycle de l'eau. Donc une fois que cette eau est précipitée derrière l'ouvrage, elle est accumulée dans le barrage, et puis on la retrouve en fait jusqu'au niveau de la mer, où après elle se réévapore pour refaire de l'eau ou de la neige. Encore un petit complément d'information par rapport au barrage. Donc tout le monde imagine les barrages comme étant en fait des barrages d'altitude, comme le barrage de la Grande Dixence ou le barrage des Mossons, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure que l'eau arrive au niveau de la plaine, donc on a différents ouvrages qui sont en fait des ouvrages au fil de l'eau, c'est comme ça qu'on les appelle, et ce sont des ouvrages qu'on retrouve sur le Rhône ou qu'on retrouve en fait sur le Rhin, donc sur les grands fleuves. Et c'est des ouvrages qui tournent en fait 24 heures sur 24 parce qu'on ne fait en fait que turbiner le débit qui transite dans la rivière.
Alors merci beaucoup. Maintenant et avant de nous quitter, le corrigé du quiz. Le 1 c'est A, 2 C, 3 C, 4 B, 5 A, C, 6 B, 7 B, 8 A ou C, le 9 C, 10 A, 11 B, 12 B, 13 A, 14C, 15B, 16C, 17A, 18A, 19B et pour finir 20B. Alors, celui ou ceux qui ont le plus de points peuvent nous envoyer leur nom et ils recevront un super cadeau.
Ah bon, c'est quoi ?
Un week-end pour deux personnes aux Maldives.
Ouais, sûrement.
Voilà les Alors,
au programme de demain, une rencontre rapprochée avec...
Les beaux gosses anglais.
Non, enfin, Lucinda, on est en direct.
Ah ouais, une rencontre avec un magnifique glacier et un expert en glacier, Monsieur Jean-Pierre Pralon, que nous avons rencontré à la cabane de Moiry. À demain, même heure, sur Radio Alp Lab, c'est le sommet.
Et merci.
Radio.
Radio.
Radio.